J'ai une très bonne question pour vous. Qui peut affirmer qu'il aime le Seigneur Jésus? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous fera voir notre cœur, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a plusieurs bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Alors allons-y sans plus tarder. Est-ce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent? Est-ce que Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus à la croix? Comment est-ce que Jésus a mis le comble à son amour pour nous? Comment est-ce que le Seigneur Jésus perçoit l'enlèvement de l'Église? Jusqu'à quel point est-ce que le Seigneur Jésus apprécie son Église? Qui est-ce qui démontre la grâce de Dieu de nos jours? Qui est-ce qui est l'objet des désirs de Jésus? Quels sont ceux qui peuvent se permettre d'affirmer qu'ils aiment le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui nous rend aptes à servir le Seigneur? Est-ce qu'il y a une forme de jalousie à laquelle les croyants ont droit? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner la parole de Dieu qui va répondre à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est bon d'entrer dans ta présence. En sachant que tu nous entends et que tu veux parler à nos cœurs encore aujourd'hui dans ton amour, parce que tu es miséricordieux, pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu aimes nous faire grâce, parce que tu aimes nous faire des cadeaux. Et le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir en ce moment, c'est ta parole, pour mieux te connaître, pour mieux t'élever dans nos vies, pour te faire connaître aux gens, pour te glorifier constamment. Alors enseigne-nous aujourd'hui. Merci pour ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous nous sommes examinés afin de savoir si nous pouvions avoir étouffé ou attristé l'esprit dans notre vie. Si nous sommes des chrétiens sans joie, c'est une indication sérieuse que quelque chose ne va pas avec notre relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Nous avons aussi souligné l'importance de témoigner avec tact et diplomatie. Lorsque les gens se mettent en colère, lorsque nous leur présentons l'Évangile, alors examinons notre façon de procéder. Il est vrai que le monde s'oppose à l'Évangile, mais nos problèmes peuvent aussi être dus à un manque de tact. Par contre, l'opposition à l'Évangile ne vient pas toujours de l'extérieur de nos églises, mais parfois elle provient de l'intérieur. Lorsque l'Évangile et la parole de Dieu sont fidèlement prêchés, la conscience de certains chrétiens les perturbe. Alors, ils peuvent s'opposer à un excellent prédicateur qui enseigne fidèlement la Bible. Nous avons aussi souligné que nous ne pouvons pas être neutres en ce qui concerne Jésus. Nous devons tous prendre une décision. Est-il Dieu? Est-il le Fils qui s'est incarné? Ou est-il un homme comme les autres? Dieu nous oblige tous à prendre une décision en ce qui concerne son Fils. Pour témoigner efficacement, nous devons connaître Jésus intimement et nous devons l'aimer. C'est la qualification principale pour être un excellent témoin. L'incarnation de Jésus-Christ, le fait qu'il ait quitté sa gloire céleste pour prendre une nature humaine, démontre sa compassion pour les êtres humains. Il est venu afin de régler le problème de nos péchés et pour nous transformer à son image. Le Seigneur Jésus ne demande qu'à nous manifester son amour. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 6, verset 1. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Les filles de Jérusalem ne sont plus aussi sceptiques et cyniques devant l'enthousiasme de la Sulamite. Elles sont maintenant disposées à aider l'épouse à retrouver son bien-aimé. Elles veulent connaître cet homme merveilleux. Elles veulent voir de leurs propres yeux combien merveilleux est le bien-aimé de la Sulamite. La Bible nous dit que quiconque cherche, trouve. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ne rejetterait pas celui qui vient à lui. Il se laisse trouver par celui qui le cherche sincèrement. Versets 2 et 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Sulamite est heureuse. Elle a trouvé son bien-aimé. Elle est rassurée, satisfaite et joyeuse. Dieu est satisfait de son Fils et de son œuvre pour sauver les pécheurs. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. » Luc chapitre 9, verset 35. Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il dit que si nous venons à son Fils, nous ne périrons pas, mais que nous aurons la vie éternelle. C'est une merveilleuse invitation qu'il nous fait. L'avez-vous accepté? Poursuivons notre lecture, Cantique chapitre 6, versets 4 à 9. « Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable, comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Jésus-Christ a mis le comble à son amour pour nous. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. Les expressions de ce texte sont la réponse de Salomon à la Sulamite, qui l'a cherchée longtemps, intensément, dans un état de chagrin et avec persévérance. Tirsa avait été la ville royale des anciens rois de Canaan, et pendant un certain temps, elle a été la ville des rois d'Israël. Tirsa était réputée pour sa beauté. Jéroboam a habité dans cette ville, et elle est devenue la capitale du royaume du Nord jusqu'à ce qu'Omri construisent la ville de Samarie. Le mot « Tirsa » signifie « charme ». Voyez avec quelle grâce il s'adresse à l'épouse paresseuse, peinée et folle de lui. C'est une belle image du Seigneur Jésus qui a su mettre le comble à son amour pour ses disciples. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Et il le fait aussi pour nous aujourd'hui. Quoi que nous changions, et que nous soyons instables, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Revenons au Cantique des Cantiques, chapitre 6, lisons le verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? L'enlèvement de l'Église sera un jour heureux pour le Seigneur. Ceci nous montre comment le Seigneur Jésus perçoit l'enlèvement de l'Église. Il est naturel que nous regardions l'enlèvement du point de vue de nos attentes, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Par contre, le Seigneur voit cet enlèvement sous un autre angle. Il appellera ceux qui lui appartiennent. Lorsque l'Église arrivera en sa présence, l'armée angélique verra l'un des plus grands spectacles de toute l'éternité. Ce sera l'événement le plus heureux pour le Seigneur Jésus, aussi bien que pour nous. Tous diront au sujet de l'Église, « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ?» La vie d'Isaac et de Rebecca illustre aussi l'union entre le Seigneur et son Église. Isaac travaillait dans les champs et il a vu une approche. Cette caravane amenait Rebecca. Elle est descendue de son chameau et elle est allée à la rencontre de son époux. C'est une image merveilleuse du jour où nous irons à la rencontre de Jésus-Christ. Jésus nous apprécie plus que nous l'apprécions. Dans les 9 premiers versets du chapitre 7, le bien-aimé parle de son épouse qui fait sa joie. Il la décrit avec des comparaisons savoureuses. H.A. Ironside a dit, « C'est merveilleux de savoir que le Seigneur se réjouit davantage dans son peuple que celui-ci ne s'est jamais réjoui en lui. Un jour, nous jouirons de lui pleinement, sans aucune entrave. Il sera tout pour nous, nous serons tout pleinement en lui, mais tant que nous sommes sur terre, il nous apprécie plus que nous l'apprécions. » Alors que Salomon lui exprime son amour, la Sulamite est rassurée. Elle est en relation intime avec son époux. Débutons la lecture du 7e chapitre du livre des Cantiques. Lisons le verset 1. « Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. » Qu'avez-vous à regarder, la Sulamite? Comme une danse de deux cœurs. L'Église démontre la grâce de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ démontrera la grâce de Dieu à travers les âges. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Tout l'univers créé par Dieu nous verra, nous qui formons le corps de Christ, son Église, qu'il appelle son épouse. Aucun de nous n'est digne ou ne mérite d'en faire partie, mais nous y serons parce que nous sommes en Christ Jésus. Nous y serons parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang versé à la croix. Nous y serons pour la gloire de Jésus-Christ et pour notre bien. Pouvons-nous penser à un meilleur avenir? En un seul verset, elle dit tout ce qu'il y a à dire au sujet de son bien-aimé. Le verset 11. « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Où sont les âmes bénies? La Sulamite a déjà dit deux fois, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Cantique, chapitre 2, verset 16, ainsi que chapitre 6, verset 3. Moody Stuart attire notre attention sur le fait que le verset 11 du chapitre 7 est beaucoup plus profond. Quoique ce verset implique un déversement d'amour du cœur de Jésus, il indique la présence de quelque chose de beaucoup plus précieux. Le verset révèle l'intensité du désir que le Seigneur a pour le croyant. Stuart a écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Le Seigneur qui a pensé à ses projets les connaît, mais celui pour qui il a fait ses projets est souvent ignorant, douteur et incrédule à leur sujet. Les âmes les plus bénies sont celles qui peuvent dire, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous sommes l'objet des désirs de Jésus. Quelle grâce merveilleuse !» Débutons cette fois la lecture du 8e chapitre, verset 1. « Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. » « Mon frère allaité des mamelles de ma mère » réfère à un frère naturel, une relation très personnelle. C'est ce type de frère que le Seigneur Jésus est devenu pour nous. Hébreux, chapitre 2, verset 16. Jésus n'a pas quitté sa gloire céleste pour prendre une nature d'ange, mais pour prendre une nature humaine. Il a pris un corps de la même nature que le nôtre. Avez-vous honte de reconnaître que vous aimez Jésus-Christ? « Je te rencontrerai dehors. » « Je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. » De nombreux croyants ont peur ou honte de reconnaître qu'ils aiment le Seigneur Jésus. Mes amis, n'affirmez pas que vous aimez le Seigneur Jésus si ce n'est pas le cas. Mais si votre marche quotidienne prouve que vous l'aimez, alors les gens ne vous mépriseront pas si vous en parlez. Verset 2 du chapitre 8 du livre des Cantiques. « Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. » Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Stuart a bien parlé lorsqu'il a dit, c'est notre devoir de recevoir le Seigneur Jésus le mieux possible, de ne pas être radin avec lui, et de lui offrir ce que nous avons de meilleur. Cependant, c'est aux noces de l'agneau que ce verset réfère en fin de compte. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et le Seigneur Jésus boira du vin nouveau avec elle dans le royaume de son Père. Verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillée sous le pommier, là ta mère t'a enfantée, c'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Nous sommes aptes à servir lorsque nous reconnaissons notre dépendance de Jésus. Appuyée sur son bien-aimé. La fin de la vie d'un véritable croyant est caractérisée par la faiblesse, par la dépendance et par l'amour. Pendant la jeunesse, ils prennent leur essor comme les aigles, Ésaïe 40, verset 31. Alors que l'étendard de son amour flottait au-dessus de leur tête. Adultes, ils couraient sans se fatiguer, même lorsqu'ils le cherchaient dans les rues de Jérusalem, remplis de chagrin par son absence. Cependant, à un âge avancé, nous sommes plus disposés à nous appuyer sur lui avec la foi d'un enfant. Finalement, c'est lorsque nous reconnaissons notre entière dépendance sur Jésus-Christ et que nous savons vraiment que sans lui, nous ne pouvons rien faire, qu'il nous considère aptes à le servir. Verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Sommes-nous jaloux de la gloire de Dieu? Car l'amour est fort comme la mort. L'horreur de la mort a été le prix que Jésus-Christ a payé pour nous avoir aimés. Nous qui étions des hommes perdus, mais cette horreur ne l'a pas empêché de se sacrifier pour nous. Il nous a aimés, il s'est livré pour nous, et il est mort sur la croix en acceptant toute cette honte. L'épouse de l'agneau immolé a aussi vu la mort des dizaines de milliers de fois. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 8, les versets 38 et 39. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Le séjour des morts ne connaît pas la pitié. Nous mourrons tous un jour sans exception. Le prophète Élie était inflexible pour la gloire de Dieu. Cela l'a poussé à faire périr les prophètes de Baal au ruisseau de Kizon. Il n'en a pas laissé un seul s'échapper. Une jalousie pour la gloire de Dieu a aussi poussé l'apôtre Paul à prononcer une malédiction. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Nos ancêtres ont connu cette jalousie beaucoup mieux que nous. Pendant des périodes de persécution, leur amour ardent pour le Seigneur Jésus s'est allié à une hardiesse, de sorte qu'ils n'ont pas craint de mettre leur vie en péril pour la gloire de Dieu. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Ceci nous rappelle l'amour qui brûlait dans le cœur de Jésus lorsque, au moment de chasser les vendeurs du temple, il a dit « Le zèle de ta maison me dévore », rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 2, verset 17. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu, et c'est de là qu'il a transmis son amour brûlant à ses disciples. Il a envoyé son esprit sous forme de langue de feu. Le feu de l'amour a brûlé dans leur cœur avec encore plus de férocité que celui qui brûlait autour de leur tête. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Combien de fois n'avons-nous pas été à la hauteur? Cependant, tous nos échecs n'ont pas éteint son amour, et nos péchés ne l'ont pas éteint davantage. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dieu ne nous demande pas notre argent, ni que nous le servions. Il nous demande de l'aimer. si nous ne l'aimons pas. Il méprise nos bonnes œuvres et l'argent que nous donnons lorsque l'on passe l'offrande. Verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? La petite sœur représente la branche de l'Église qui a été formée par les païens convertis. Le premier concile de l'Église, rapporté dans le livre des Actes au chapitre 15, a été convoqué au sujet d'un conflit entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne, c'est-à-dire les non-juifs. Les juifs voulaient imposer aux non-juifs toute la loi mosaïque. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Personne ne voudrait d'elle. Les juifs rejetaient les païens. Cependant, le jour venu, l'époux a appelé la petite sœur. Mes amis, nous n'avons pas été choisis parce que nous étions beaux, mais parce qu'il nous a vus dans notre état de perdition et il nous a aimés. Quel accueil la petite sœur recevra-t-elle de sa sœur aînée maintenant que le Seigneur Jésus l'a appelée? Verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Puisque Dieu accueillait les païens, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 22. La branche d'origine juive de l'Église désirait construire sur le fondement avec la circoncision, des rituels religieux, des règlements. Ils voulaient imposer à la jeune Église un fardeau qu'ils avaient eux-mêmes trouvé trop lourd. Au concile, Jacques a dit « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Actes chapitre 15, verset 19. Au concile, tous se sont entendus pour ne pas imposer la loi mosaïque aux chrétiens non-juifs. Revenons au Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 10. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. La petite sœur se réjouit. Lorsque les païens qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus apprirent la décision favorable du concile, les frères se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Acte chapitre 15, verset 31. Étant reconnue comme un mur du temple de Dieu, la petite sœur se réjouit du privilège. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Citation d'Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Et mes saints sont comme des tours. La petite sœur représente l'Église formée des païens convertis, et elle a vite engendré et nourri d'autres églises. Elle les a nourris du lait spirituel et pur de la parole, comme nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Soyons conscients que la petite sœur comprend toutes les nations contemporaines. De nombreuses personnes dans le monde n'ont jamais répondu à l'appel de l'époux, car elles n'ont pas entendu sa voix. Comme nous dit Romains chapitre 10, verset 14. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous sommes encouragés, frères et sœurs, vous qui avez la foi en Jésus-Christ, de partager votre foi avec les gens de votre entourage. Ils ont besoin d'entendre ce message. Dieu veut que nous allions vers eux afin de pouvoir parler de son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Un nouveau livre, un livre du Nouveau Testament, l'Épître de Paul aux Colossiens. Lisez chapitre 1, versets 1 et 2.
Merci, Régent. Tu as dit une phrase qui m'a touché particulièrement au cours de l'enseignement d'aujourd'hui. Tu as dit que nous sommes aptes à servir lorsque nous reconnaissons notre dépendance de Jésus. C'est tellement vrai. Mes amis, s'il y en a parmi vous qui avez un ministère au sein de votre Église, je pense que vous allez me comprendre. Et quand je parle de ministère, ça peut être à l'accueil, au ménage, peu importe quel ministère, on est réellement apte à servir quand on reconnaît notre dépendance du Seigneur. Mon ministère à l'Église consiste à voir est-ce qu'il y a toujours une équipe qui a été formée pour amener le peuple de Dieu dans la louange le dimanche matin et à d'autres occasions aussi. On est 4 animateurs de louange et on a 2 équipes de musiciens et 4 équipes de chanteurs. Parfois, je travaille avec une équipe, parfois avec une autre. On a des répétitions, soit le vendredi soir ou le samedi matin, et on a une autre répétition le dimanche matin, environ 45 minutes avant le culte. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est qu'avant chaque répétition, on prend un temps significatif pour prier ensemble, afin de remettre ce temps et le temps officiel de la louange entre les mains de Dieu. Je vous avoue que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui chantent beaucoup mieux que moi et des musiciens qui sont bien plus habiles que moi. Et c'est merveilleux, je m'en réjouis. Mais quand vient le temps d'adorer notre Dieu, ce qui est encore plus important que ça, c'est que chacun de nous réalise qu'il ne peut absolument pas accomplir ce ministère sans la toute-puissance de Dieu. Alors quand je m'aperçois qu'un musicien ou un chanteur ne demande jamais l'aide de Dieu, je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Et sur ce même, quand je rencontre ma partenaire de prière, on demande à Dieu qu'il convainque chaque membre de l'équipe de l'importance de ne pas mettre sa confiance dans ses dons, dans ses talents, mais dans la toute-puissance de Dieu. Et il nous exauce. Encore dernièrement, un frère qui est un excellent musicien a dit pendant le temps de prière, « Seigneur, aide-moi, je suis incapable de te servir sans ton aide. » Ça me fait penser à l'apôtre Paul qui réalisait constamment sa faiblesse et son besoin d'avoir la grâce de Dieu. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, il nous en parle. Voici ce qu'il dit. « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et à la fin du verset 10, il ajoute ceci, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Oh, laissez-moi finir par une prière. Seigneur, aide-nous à toujours réaliser notre faiblesse, notre incapacité de te servir sans ta grâce. On a besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à toujours le réaliser. Aide-nous à toujours aller devant toi avant... quel que soit le service que tu nous demandes, afin d'aller chercher ta grâce et ta toute-puissance qui se manifeste tellement bien dans notre faiblesse. Alors c'est vrai, Seigneur, on est faible, mais tu es fort. Tu es tout-puissant et tu es notre Dieu merveilleux.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a des belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.